Bonjour tout le monde.
Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes sur Roll Mops 88.3, la numéro 28 sur Radio Campus.
Bien sûr.
La plus grande des radios de tout l'univers.
Absolument. Et on est content de vous retrouver.
Bah, carrément, ouais.
Sous la neige.
Très heureux, très heureux.
Eh bien, une émission qui va être teintée d'une couleur un peu particulière, on en parlera un petit peu plus tard. Mais ça va nous emmener un petit peu partout, enfin je dis un petit peu partout. Pour le coup, c'est principalement USA et Great Britain. Alors on va aller côté américain, on va aller à Memphis en 63, on va aller à Nashville en 57, on va aller à Los Angeles en 58-59, on va aller à Boston en 73, 77, 87. Et on va aller à Londres en 66 et en 94.
Tout à fait, voilà. Ouais. Bon, c'est un petit peu les villes habituelles, on va dire.
Oui, hein, oui,
mais
oui.
Bon, bref, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose de commencer tout de suite avec Nashville en 1957, avec Gene Vincent and the Blue Caps.
Ah.
Et oui, oui, l'un des pionniers du rock'n'roll, avec un titre "Hold Me, Hug Me, Rock Me", qui est tiré du deuxième album donc de Gene Vincent and the Blue Caps, et qui, en fait, le premier a été fait en 56. Donc, en 6 mois, ils ont sorti 2 albums. Et notamment, ce qui est très intéressant au niveau des Blue Caps, c'est qu'il y a un guitariste exemplaire qui s'appelle Monsieur Cliff Gallup. Effectivement, Cliff Gallup, au fait, il fait partie de la Sainte Trinité des guitaristes de rockabilly, avec Scotty Moore qui accompagnait Elvis Presley, et puis également James Burton qui accompagnait Ricky Nelson. Alors, bon, notre ami Cliff Gallup, au fait, même s'il est très très bon, et puis qu'il a impressionné beaucoup de guitaristes des années 60, du début des années 60 anglais, on parle notamment de Clapton, on parle notamment de Jimmy Page, et également d'un certain Jeff Beck, eh bien, ce dernier, il a joué que pendant 8 mois, puisqu'il était un peu plus vieux que les autres Blue Caps et que Gene Vincent, et puis il avait une fille, et puis que ça le gavait de faire une tournée. Bon, en même temps, les tournées aux États-Unis en 57, ça devait pas être terrible. Et puis, au fait, eh bien, il a continué à jouer de la musique après, mais il a abandonné les Blue Caps. Il a renoncé, il a continué à jouer.
Il a peut-être regretté ?
Pardon ?
Il a peut-être regretté ?
Ouais, je sais pas. Non, parce qu'a priori, il aurait pu franchement revenir sans trop de difficultés, puisque Gene Vincent a fait pas mal de comebacks. Mais non, en fait, il préférait rester dans sa ville, avoir son petit boulot, sa vie de famille, et puis jouer comme ça. Donc, en tout cas, je vous propose de commencer par donc, un morceau tiré de ce second album qui s'appelle Gene Vincent and the Blue Caps, avec Hold Me, Hug Me et Rock Me.
Hold me, baby, hold me, baby, hold your love for me. Oh, rock, rock, rock me, baby, rock, rock. Baby, hold me, baby, hold me, baby, hold me, baby, hold me, baby, hold me all the time. But rock, rock, rock me, baby, rock, rock. Love me, baby. Love me, baby. Love me, baby. Love me, baby. Love me all the time.
Who slept on when the lights went low?
mon cher Fredo. Oui. C'est un deuxième morceau des Blue Caps que tu nous as passé.
Pas du tout, mon cher. La voix n'est pas tout à fait la même. Et non, c'est effectivement tiré de l'album enregistré en 1994 par Jeff Beck and the Big Town Playboys. Ouais. Donc un groupe de rockabilly anglais. Puisqu'effectivement, Jeff Beck vouait un culte total à Cliff Gallop. Et donc, il a pris la même guitare, une Gretsch Jet Duo 6128. Le même ampli. Alors, pas l'ampli d'enregistrement du studio, puisque c'était un Martin qu'il n'a pas retrouvé, mais il a pris un Fender Bassman en version tweed. Et puis voilà, donc c'est quand même assez bluffant. Néanmoins, je trouve que le jeu de Cliff Gallop est un petit peu plus agressif que celui de Jeff Beck.
Oui, c'est un peu plus soft, Jeff Beck.
Mais quand même, enfin voilà. Et donc, en fait, cet album qui s'appelle Who Slept John a 18 morceaux. C'est quasiment la totalité des deux premiers albums de Gene Vincent and the Blue Caps. Voilà, sorti en 1994. Voilà, et donc je te passe.
Oui,
le ballon.
Oui. Parce que, vous l'avez compris, la coloration dont je parlais tout à l'heure, c'est la coloration qui est liée à la mort de Jeff Beck, vous l'avez certainement entendu, qui est mort le 10 janvier dernier. Donc j'ai voulu retracer un petit peu une partie de sa carrière, plutôt la première partie. La seconde, elle est tellement dense et tellement variée, et que je connais moins d'ailleurs. Geoffrey Arnold Beck, dit Jeff Beck, est né en 1944 à Wallington, c'est la banlieue de Londres, c'est le Grand Londres, comme on dit. Donc mort le 10 janvier 2023, à l'âge de 78 ans.
Ouais.
Et quand on regarde les dernières photos de Jeff Beck, c'est assez bluffant.
Oui, tout à fait.
Alors, il devait se teindre des cheveux, je pense, mais il avait toujours la même coupe, et il avait encore bonne tête. Quoi.
Et je crois qu'il était plutôt clean, un certain temps, mais je crois qu'il est mort d'une embolie pulmonaire.
C'est ça, voilà. Tout à fait. Et donc, à 10 ans, il chante dans une chorale d'église, un peu comme... pas mal de rockers ou de chanteuses de soul au départ.
Exactement.
Adolescent, il apprend à jouer sur une guitare empruntée et puis il fait plusieurs tentatives pour essayer de construire sa propre guitare.
C'est pas mal.
Oui. Alors, il n'y est jamais arrivé, apparemment. il préférait les emprunter. On en parlait, les guitaristes qui l'ont influencé. Donc, c'est évidemment le fameux Cliff Gallop des Blue Caps, tu l'as dit. Mais également Les Paul. Les Paul, bien sûr.
Sachant que Les Paul avait influencé Cliff Gallop.
Ouais. Et que Les Paul était fabricant de guitare aussi. Musicien et.
C'était un ingénieur.
Oui,
il a également inventé les synthétiseurs, le multipiste, le délai. Il fallait inventer beaucoup de choses.
Donc je pense qu'il a dû se dire, si Les Paul peut faire ça, moi je vais aussi construire mes propres guitares. Plus tard, il aura d'autres influences dont il parlera, notamment Bill King et Steve Cropper. Et il se trouve que Steve Cropper produira un de ses albums dans les années 90.
Oui, Steve Cropper qui fait partie de l'écurie Stax, évidemment.
Absolument. Donc après avoir quitté l'école, Jeff Beck étudie au Wimbledon College of Art, puis il quitte assez rapidement l'école d'art et il se met à travailler, il occupe différents postes, différents métiers. Et c'est à cette époque qu'il rencontre Jimmy Page par l'intermédiaire de sa sœur. Donc sa sœur connaissait Jimmy Page et lui a présenté Jeff. Et c'est en fait Jimmy Page qui l'intronisera comme musicien de studio comme lui. Jimmy Page était déjà musicien de studio et là en fait il invite celui qui restera son ami jusqu'à la fin, Jimmy Page, invite donc Jeff Beck comme musicien de studio. En 65, Jeff Beck rejoint donc les Yardbirds.
Excellents Yardbirds.
Le fameux Yardbirds. Donc sur une recommandation de Jimmy Page, parce qu'en fait les Yardbirds auraient initialement souhaité que ce soit Jimmy Page qui prenne la guitare pour remplacer en fait Eric Clapton, qui est parti pour le John Miles Blues Breakers.
Exactement.
Le très jeune Eric Clapton. Juste après leur plus grand succès, le For Your Love, époque Eric Clapton. Donc, 65 débarque donc Jeff Beck. Et en 66, les Yardbirds se retrouvent avec deux des plus grands guitaristes anglais de leur époque, Jeff Beck et Jimmy Page. On peut les voir dans le fameux film Blow Up de Michelangelo Antonioni, sorti en 66. C'est d'ailleurs presque la seule façon de voir Jimmy Page et Jeff Beck à la guitare jouant ensemble dans une vidéo.
Tout à fait.
Excellent passage d'ailleurs.
Excellent, tout à fait.
Il y a une autre vidéo où on les voit tous les deux, mais c'est du playback, c'est une émission de télé sur le morceau « Happenings ». 10 years ago, qu'on avait passé dans un role mode précédent. Donc Jeff Beck est un des premiers guitaristes à expérimenter notamment la distorsion, notamment en 66 sur l'album Roger the Engineer, le seul album studio qu'il a enregistré avec les Yardbirds. Il n'est pas resté longtemps dans les Yardbirds. Et il est aussi un des précurseurs de l'utilisation du feedback et de la fuzz également.
Oui.
Donc Jeff Beck quitte le groupe au bout de 18 mois seulement, un an et demi, fin 66. Et c'est pendant ces années de présence que le groupe a enregistré la plupart de ses succès classés au top 40 britannique. C'est pas la période de Eric Clapton, à part For Your Love, il n'y a pas beaucoup de reprises au départ.
C'est ça.
Voilà.
Personnellement, moi, j'ai pas une grande admiration pour Eric Clapton.
Moi non plus.
Dans les Cream, oui.
Ouais, voilà. Pas tout.
Mais pas tout.
pas quand ils font des morceaux de 20 minutes en live. Et donc le, bah, les plus grands succès, hein, Heart Full of Soul, Shapes of Things ou encore Over Under Sideways Down. Et bien justement, on va écouter deux morceaux des Yardbirds période Jeff Beck, donc en 66. D'abord, bah, Over Under Sideways Down, et puis je vous parlerai du deuxième après.
Turn to stop, it's all along. You wish you never.
ça se tire la bourre la guitare. Hein.
Un petit peu, un petit peu.
On dirait les Buxton Blade sur scène.
Oui, merci. En tout cas, sur ce deuxième titre, on voit vraiment qu'il y a quelque chose se passe en Angleterre au niveau de la musique. Hein. On est...
Ah oui.
Voilà.
Oui, oui, oui. Et puis on voit, donc y a, c'est donc le morceau Stroll On, hein, la BO de, du fameux Blow Up d'Antonioni en 66. Donc ils reprennent, en fait, c'est The Train Kept Rolling, hein, de Johnny Burnett, mais qu'ils reprennent effectivement sous un autre titre pour éviter les frais de... les, comment dire,
les droits d'auteur. Ouais. Et une nouvelle fois, encore du rockabilly. Hein. Comme quoi,
ah, bah oui, oui, ouais, oui. Oui. Ouais, bah ouais, et d'ailleurs, l'original est extrêmement surprenant de Train Captain Rolling.
Super, mais Johnny Burnett, c'est excellent, malgré son nom qui en français peut faire rire. Mais...
Oui, oui. Et là, on voit que la particularité, effectivement, de Jeff Beck, c'est l'utilisation du vibrato énormément.
Ouais, carrément. Ouais.
Et puis, donc, l'enchevêtrement de guitare avec Jimmy Page, c'était. J'aurais voulu être une petite souris et revenir dans le passé pour voir un concert des Yardbirds avec Jimmy Page et Jeff Beck. Voilà, donc on
mais
on
dites-moi, mon cher ami, oui. Jimmy Page, je ne tite pas la basse au sein des Yardbirds.
Alors, au tout départ, oui, oui. Parce qu'en fait, Chris Dreja était guitariste. Ouais. Et quand Eric Clapton, quand Eric Clapton s'en va, non, c'est Jeff Beck qui arrive. Et quand, effectivement, Jimmy Page arrive, en fait, c'est Chris Dreja et Jeff Beck qui étaient à la guitare. Et donc Jimmy Page avait été recruté pour être bassiste. D'accord. Et on voit quelques photos, il joue de la basse.
Effectivement.
Mais il n'a jamais enregistré quoi que ce soit à la basse. D'accord. Et en fait, rapidement, Chris Dreja est passé à la guitare. Et c'est Jimmy Page qui a pris la guitare. À la basse.
À la basse, bien sûr. Ouais. C'est, en même temps, on peut comprendre. Eh bien, moi, je vais vous proposer de faire un petit retour. Enfin, pas un retour, puisque moi, j'ai ouvert l'émission en 57. Là, je vous propose d'aller à LA en 58 et en 59 avec du doo-wop, enfin, du moins du post-doo-wop, parce que beaucoup de rockers et même des punks, hein, puisque Joey Ramones, par exemple, c'était un grand fan de doo-wop, apprécie cette musique. Alors, effectivement, je vais commencer par le classique du classique, Richard Berry and the Pharaohs.
Alors, quel acteur,
rien à voir avec l'acteur, bien évidemment. Mais oui, Richard Berry, c'est qui? Bah, c'est celui qui a inventé l'une des plus grandes chansons de tous les temps, Louis. Eh oui, ouais, tout à fait. Alors, j'ai pas vous la passer, peut-être qu'on la passera un jour, mais bon, c'est quand même le classique du classique.
Alors, si on faisait un last but not least avec Louis, je pense qu'on peut faire 5 émissions.
On a à peu près, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu des compilations
entre producteurs,
des best-of. Je crois qu'il y a plusieurs volumes. Hein, voilà. Ah, alors, ça. Pour la petite histoire, Richard Berry a cédé les droits de Louis pour $200. Pour financer son mariage.
Aïe.
Et il va récupérer son argent qu'en 1985, après une action en justice, il va recevoir à peu près $2 millions sur les 10 millions qu'avait remporté la chanson à l'époque. Mais bon, tant mieux, il a quand même récupéré un peu de talbin. Et là, en fait, c'est pas Louis que je vais vous proposer d'entendre, mais c'est un autre morceau que tout le monde pense qu'il est inventé par les Sonics, mais non, c'est Have Love Will Travel, l'original par Richard Berry. Et il sera enchaîné avec un autre ami de Los Angeles, c'est Gigi Jackson and the Jackals. Alors, ne pas confondre avec un homonyme contemporain, mais qui était plus dans la soul de New York, qui s'appelait également Gigi Jackson, qui avait été connu pour son grand titre But It's Alright. Non, là, Gigi Jackson, lui, pareil, chanteur de doo-wop au départ au sein des Cordials, et puis qui, avec les Jackals, va faire quelques morceaux, quelques moins de succès que Richard Berry, bien évidemment, et puis sa carrière s'arrêtera dans les années 70. En tout cas, on y va pour 5 minutes 23 de musique fort agréable, on y va. No matter where I go, no matter where I be.
you pop a doodle, she did it. Yeah, she did it. She went a oom a litty wow wow. She pop a doodle, she did it. Yeah, she did it.
Voilà.
C'est chaloupé, hein.
Ah, carrément. Moi, j'adore ça. Ça me met toujours de bonne humeur.
Ah ouais,
donc, c'était Richard Berry The Pharaohs avec Have Love With Travel. Et puis après, Gigi Jackson avec la chanson, j'ai pas donné le titre, c'est Oh My Lady. Alors, O-O-M-A-L-I-2-D-I. Quand on écoute ce morceau avec cette superbe trompette sourdine,
oui.
Et puis le début, je pense que ça fait partie certainement des choses qui ont pu faire émerger le hip-hop, hein, quelque part. Enfin, on commence déjà à avoir une autre manière. On utilise sa voix pour faire de la musique, comme d'ailleurs sous le morceau de Richard Berry où il y a le train avec. Entend également le et puis les coups de sifflet. Donc. Voilà, enfin moi je trouve ça super bien.
En écoutant l'original de Have Love Will Travel, on se dit que les Sonics ont été bien inspirés parce qu'en fait ils ont transformé des whoop de whap en riff de.
C'est en ça que les Sonics sont, on va dire, les premiers punk en fait, font partie des premiers punk. Voilà.
Ouais. Bien, on va reprendre un peu l'histoire de Jeff Beck. On va parler un peu de la deuxième partie spéciale pour lui quand même. Bah oui, quand même, il le mérite bien. Donc on l'avait laissé quittant les Yardbirds en 66. Alors en fait, il retrouve quelques-uns de ses amis et d'autres musiciens. Et il enregistre le morceau Beck's Bolero qui sera d'ailleurs sur le premier album Truth,
ouais.
Du Jeff Beck Group. Et donc il enregistre en février 67 ce morceau avec Jimmy Page, John Paul Jones, futur Led Zeppelin, Nicky Hopkins, le fameux pianiste, et Keith Moon à la batterie. Malheureusement, on n'a pas trace de cette version du Beck's Bolero. J'aurais bien voulu voir ça. Et donc il enregistre également deux singles solo au Royaume-Uni, Hi-Ho Silver Lining et Tallie Man. Donc voilà, il lâche pas l'affaire, hein. Dès la fin de Yardbirds, il réenregistre. Et il forme ainsi le Jeff Beck Group, avec qui ? Eh bien avec Rod Stewart au chant, Ron Wood à la basse, et Mick Waller à la batterie, et Nicky Hopkins au piano. Allez, voilà.
Que du beau monde.
Absolument. Et le groupe produit alors deux albums excellents. Le premier, Truth, la vérité, en 68, et Beck Ola en 69, donc avec les mêmes musiciens. Et je crois que le batteur qui a changé sur le deuxième album. Alors, l'album Truth est considéré comme un des tout premiers albums de heavy metal blues. Notamment grâce au chant incroyable de Rod Stewart, pour moi il est au meilleur de sa forme.
On est complètement d'accord.
Il est extraordinaire.
Ah ouais.
Et aux enchevêtrements de guitares saturées, je ne sais pas combien il y en a des guitares de Jeff Beck avec ses distorsions, ses fuzz, etc. Donc ils y reprennent notamment le fameux You Shook Me de Willie Dixon. Ce qui était assez amusant, c'est que son ami Jimmy Page va enregistrer le même morceau 5 mois après,
sur le
premier Led Zeppelin.
Voilà. D'ailleurs, le Led Zeppelin, c'est Keith Moon qui a trouvé ce nom-là, puisqu'avant, il s'appelait The New Yardbirds.
Oui, absolument.
Enfin,
oui.
On voit bien que tout ça, c'est le même panier. Quoi.
Et puis, Keith Moon était dans l'affaire. Et Truth rencontre un succès. et obtient même une 14e place au Billboard. Donc on va écouter donc un premier morceau de cet album Truth. Eh bien, c'est le morceau Shapes of Things, justement.
Eh oui.
Et tu m'as convaincu, parce qu'au départ, je voulais mettre un autre morceau dans un premier temps, mais bon, non. On va mettre ça. Donc, Shapes of Things de Truth, mais simplement, c'est une version live à la BBC, si je ne m'abuse.
C'est ça qui est un peu plus courte. Et moi, je trouve qu'elle est meilleure. Enfin, en fait, c'est une reprise, c'est une auto-reprise, en fait. Hein. Je la trouve meilleure que la version des Yardbirds. Enfin.
Oui, moi aussi, oui. Elle est un peu plate, Shapes of Things.
On est d'accord.
Donc c'est un live à la BBC en 68.
C'est ça.
Yeah.
Spanish boots on it so low. Put on my boots, that's it so low. Those old Spanish boots.
Waouh, excellent, excellent, j'adore.
On comprend mieux l'appellation heavy metal blues, ouais, c'est ça. Oui, et puis alors, c'est vrai que entre les saturations de Jeff Beck et puis le chant déchiré de Rod Stewart. Hein.
Et puis le batteur, là, sur le deuxième morceau, c'est John Bonham avant l'heure. Hein,
et puis là, à la fin, on a pu voir une espèce de solo de basse de Ron Wood.
Excellent, excellent, tout à fait.
Voilà, donc c'était Shapes of Things, morceau originalement des Yardbirds, période de Jeff Beck déjà, hein, donc il reprend un de ses morceaux, en quelque sorte. Donc sur le LP Truth du Jeff Beck Group, hein, donc c'était d'abord un live à BBC, excellent live, hein, en direct, super.
Ouais, le son est super, ouais, tout à fait.
Donc tiré de l'album Truth, et deuxième... Spanish Boots, tiré du deuxième LP Beck Ola, sorti en 69. Le Jeff Beck Group va se séparer à cause de frictions dans le groupe. Hein, Rod Stewart et Ron Wood, en fait, ils partent en 69. Ouais. Et ils vont où ? Eh bien, ils vont participer, effectivement.
Aux Faces.
Aux Faces.
Ouais. Alors, les Faces, bon, il y a quelques morceaux bien, mais...
Ouais, moi, je suis d'accord.
C'est bizarre, c'est dingue. Mais...
Ouais. En fait, à eux deux, ils remplacent Steve Marriott tout seul.
Voilà, c'est ça. Enfin,
il y en a qui chantent et l'autre qui fait la guitare. Et savais-tu, mon cher Bubu, qu'ils se séparent quelques semaines avant Woodstock, où ils devaient jouer à Woodstock.
C'est une bonne idée, ça. La loose. La loose totale. Bon, en plus, Ron Wood, il s'est bien rattrapé, il a intégré les Stones. Bon, Rod Stewart, il a fait des sous, il n'y a pas de souci, mais bon, en faisant de la daube, quand même.
Oui, on peut bien le dire.
Enfin, de la variété.
Voilà. Oui, de la variété, c'est ça. Alors, entre Jeff Beck et Rod Stewart, il y a toujours eu un petit peu de bisbille. Et Jeff Beck dira un peu plus tard de Rod Stewart, en fait, nous avions une relation amour-haine. Lui, il m'aimait et moi, je le détestais.
Excellent. Je pense que Jeff Beck avait beaucoup d'humour.
Hein, mais... Il avait dit ça en hommage à Rod Stewart. Hein. Je pense qu'il devait s'aimer quelque part.
Elle est pas mal, elle est bonne, celle-là. J'en replacerai un jour.
On peut l'utiliser en ville, comme on dit, ouais, dans les dîners.
Ou pendant tes entretiens professionnels annuels.
Ouais, oui, donc le Jeff Beck Group, de fait, il se dissout. Hein. Et savais-tu qu'après la mort de Brian Jones, Jeff Beck avait été approché pour rejoindre les Rolling Stones ?
Ça aurait été extraordinaire.
Ah, bah oui, je veux. Ouais. Enfin, il aurait pris un peu de place.
Quoique. Parce qu'au fait, justement, Jeff Beck, Clapton, Jimmy Page, influencé par le rockabilly, voilà. Keith Richards, lui, il est plutôt influencé par Chuck Berry. Et c'est vrai que, même si c'est super, hein, mais on n'est pas dans la même virtuosité, la même attaque. Ouais. Enfin, techniquement, vraiment, cette manière de frapper les cordes là, et puis la virtuosité, la vitesse, ça marche bien. Donc je pense qu'effectivement, Jeff Beck aurait largement débordé et sur Kef, et du coup, peut-être aussi sur Mick Jagger, qu'on n'aurait pas trop aimé.
Il aurait pris de la place.
Un petit peu comme Curtis Knight, par exemple, quand Jimi Hendrix jouait Richard, genre, mais tu joues trop fort, mec.
Alors que le talentueux, mais très gentil Mick Taylor, lui, il était bien resté à sa place.
Exactement. Ouais.
Est-ce que tu savais également que Jeff Beck, il avait été approché en 67 par Pink Floyd ?
Ah oui.
Ah, ouais. Ouais. Pour remplacer Syd Barrett, pour l'épauler au départ, mais au final il l'aurait remplacé. Alors, ça aurait été un peu plus surprenant parce que c'est pas son univers, mais à voir.
Ouais, peut-être que du coup Pink Floyd n'aurait pas fini à faire du rock progressif merdique et continuer à faire des bons disques comme au début. Je sais pas, je dis ça, je dis rien.
Je laisse son appréciation. Étape suivante, en septembre 69, il fait équipe avec la section rythmique de Vanilla Fudge.
Ouais.
Et on a passé un morceau de Vanilla Fudge. Hein.
Tout à fait.
Donc c'est le bassiste Tim Bogert et le batteur Carmine Pice. Mais malheureusement, en décembre 69, Jeff Beck est victime d'une fracture du crâne suite à un accident de voiture qui va l'immobiliser quelque temps. Donc les deux autres vont former un autre groupe qui est très bien. Peut-être j'en passerai, c'est Cactus. Je ne sais pas si tu connais Cactus.
Oui. Ouais. Là, on commence. On
c'est, est, c'est du lourd.
Voilà, c'est proto hard rock. Enfin,
oui,
on est déjà.
Ouais. Oui, c'est boogie hard rock. Voilà. Voilà. En 70, après que Beck eut retrouvé la santé, il forme un nouveau groupe avec le batteur Cozy Powell, le guitariste-chanteur Bobby Tench, le claviériste Max Middleton et le bassiste Clive Chapman. Le nouveau groupe s'est produit sous le nom de The Jeff Beck Group encore, mais il y avait un son sensiblement différent du premier line-up. Hein. On ne retrouvera pas cette rage, on va dire, qu'on trouvait sur les deux albums, les deux premiers albums. Alors, ils vont sortir également sous cette composition deux albums, Rough and Ready en 71 et The Jeff Beck Group, hein, tout simplement, en 72. Mais ces deux albums s'orientent vers la soul, le rhythm and blues et le jazz, préfigurant la direction que la musique de Beck prendra plus tard dans la décennie et même après. Hein. Ouais, il aura vraiment touché à tout après. Ouais. Donc le groupe se dissout en juillet 72 et Beck a ensuite commencé à collaborer, justement, enfin, avec le batteur et le bassiste, donc Beck, Bogart et Nepais. Donc superbe association. Ils vont, après une tournée, ils enregistrent en avril 73 l'album Beck, Bogart and Nepais, BBA pour les puristes. La critique reconnaît la prouesse technique des trois musiciens, mais le public ne suit pas.
Non, mais il n'y a pas de tube, il n'y a pas de hit. Quoi.
Non. Voilà. C'est un peu de la démonstration. Mais c'est bien fait, hein, c'est pas mal. Et en fait, jusqu'à sa mort, il multipliera les expériences musicales et les collaborations. Hein, il a sorti au total 18 albums. Et le dernier, qui date de 2022 et qui s'appelle 18, justement, sais-tu avec qui il a enregistré ?
Pas la moindre idée.
Avec Johnny Depp.
Ah bah oui, bien sûr, j'ai vu des vidéos, oui. Ouais, c'est ça.
Donc en fait, Johnny Depp, il n'a pas une guitare seulement dans Sauvage de Dior.
Oui, j'ai regardé le reportage qui est passé après le film de dimanche soir sur Arte sur Johnny Depp. Il a même, quand il était minot, il jouait de la guitare.
Oui, c'est un vrai guitariste.
Non, c'est un vrai guitariste, ouais, tout à fait.
Jeff Beck, en fait, il aura obtenu pas moins de 16 Grammy Awards.
Pas mal.
Pour sa carrière, pas mal. Hein.
En fait, pour caler les livres, c'est bien.
Il a pas produit tant que ça, 18 albums en.
Oui, c'est pas énorme.
En 30 ans.
Ouais, comparé à Johnny Hallyday, franchement, il va pas haut.
Il y a eu des périodes où il a pas fait d'album pendant 4-5 ans, Jeff Beck. Donc il est décédé, alors non pas d'une embolie pulmonaire, mais d'une méningite bactérienne.
Ah oui, une méningite bactérienne, ce qui est pire.
Le 10 janvier 23, à l'âge de 78 ans. Et quelques minutes après l'annonce de sa mort, les musiciens et les amis ont commencé à lui rendre hommage. Hein. Jimmy Page évoque le guerrier à six cordes à la technique unique. Mick Jagger a parlé de l'un des plus grands guitaristes du monde. Et Ron Wood a déclaré « Maintenant que Jeff est parti, j'ai l'impression qu'un de mes frères a quitté ce monde et il va beaucoup me manquer. »
Bravo.
Rest in peace, Jeff.
Yes, bravo. Eh bien, moi, je vais vous proposer de répondre à une demande parce que chez Roll Mob, nous sommes des gens très, très gentils et nous avons un auditeur de la région de Nantes qui s'appelle Francisco de la Tapisserie qui nous a envoyé un petit message. Il me dit, depuis le début, Roll Mob, ça ne fait que augmenter en termes de qualité. Mais il y a un mais, vous n'avez jamais passé les Real Kids.
Ah.
Et là, je me dis, notre ami Francisco de la Tapisserie doit certainement aimer le rock'n'roll de Bastam. Et du coup, je lui propose d'écouter un titre des Real Kids, mais pas que des Real Kids. Parce que qui dit Boston dit également The Liars.
Évidemment.
Et,
oui,
et pour le coup, je vais également faire plaisir à un de nos auditeurs berruyers, Jean-Philippe Rapiche, qui est également un fan de ce rock'n'roll de Boston. Alors, les Liars, on va commencer par eux avec le morceau How Do You Know de 87, tiré du deuxième album éponyme, donc qui est composé de Jeff Connelly, évidemment, le chanteur et organiste, John Bernardo, Rick Coraccio et Panny McCormack. Alors, les Liars sont fondés par Jeff Connelly en 79 après la fin, le split de DMZ. On a déjà passé, je crois, un morceau de DMZ, si je ne me trompe pas. On le surnommait Monoman, pourquoi ? Parce qu'il avait une passion totale pour les disques des 60s enregistrés en mono. Et puis, en fait, le groupe va pas faire beaucoup de disques, mais néanmoins beaucoup de concerts. Du coup, il y a beaucoup de lives qu'on peut trouver quand t'es réédité des Liars.
Oui, pas toujours très bon d'ailleurs.
Non, évidemment, puisque d'ailleurs les Liars ont joué à Orléans.
Au Zigzag, en 87.
Ouais, c'est ça.
J'étais pas, mais je connais des gens qui y étaient. Hein.
Voilà, moi aussi, oui, mais Mr. Pink notamment. Mmh, je crois qu'il organisait, par exemple.
Monsieur Lhuillier Senior, par exemple, aussi.
Donc des compositions, mais pas mal de reprises, hein, notamment des Kings, par exemple, Tidal Away For You, mais également des reprises un peu rockab, un peu garage, un petit peu de tout.
Et oui, c'est assez plutôt Garage 60s.
Oui, tout à fait, ouais, c'est ça, exactement. Et donc, les Leaders ont splitté dans les années 90, mais après, ils reviennent également, puisqu'on les sollicite un petit peu. Il y a plein de musiciens qui ont joué au sein des Leaders. Il y a notamment certains qui ont pu jouer avec les Antilles, dont on a parlé la semaine dernière, le groupe d'avant les Bones, ou avec les Real Kids. Donc, ouais, à Boston, voilà. Je crois que c'était un petit peu comme à Londres, au milieu des années 60, tous les musiciens se connaissaient. Et à noter que les Liars tournent au mois de mars qu'en Espagne, du 6 au 12 mars. Ah. Alors, en fait, c'est Jeff Connelly, accompagné d'un groupe espagnol de garage qui est plutôt sympathique et rigolo, c'est Los Args. Voilà. Donc, alors, c'est rigolo parce que sur le poster, c'est une photo de lui en 87. Et puis, au fait, les Los Args, qui sont peut-être plus jeunes que moi, au fait, paraissent plus vieux que Jeff Connelly, qui doit avoir 65 ans. C'est assez rigolo. Donc, on va écouter The Liars avec How Do... Alors, Liars, c'est comme... Ça s'écrit lire, hein, c'est pas les mensonges.
L-Y-R-E-S.
Voilà. Enchaîné avec un autre groupe de Boston mythique, les Real Kids. Ben le oui. morceau, c'est Soul Gold Through and Through, de 1977, tiré de leur premier album. Bon, moi, pour moi, c'est le meilleur album des Real Kids, puisqu'il est très rock'n'roll. Donc, il y a des reprises de Cochrane, il y a des morceaux punk rock, voire power pop, mais très, très, très vitaminés, comme notamment le tube All Kinds of Girls, ou bien la superbe chanson Just Like Dart, qui a une ballade qui est magnifique, ou Reggae Reggae, qui finit le disque. Donc, ce groupe, c'est le groupe de John Felice, évidemment.
Mais oui.
Alors John Felice, pour la petite affaire, c'est un grand pote de Jonathan Richman, des Modern Lovers. Et d'ailleurs, vous savez, on a déjà passé un morceau et le disque des Modern Lovers, le premier, a été enregistré en 71, mais il est sorti que bien plus tard. Mmh. Et ben, il s'avère qu'il y a John Felice qui joue de la guitare sur ce disque. Il n'est même pas crédité, le pauvre. Donc voilà. Et d'ailleurs, à ce titre, John Felice a dit dans une interview pour un magazine américain dont j'ai oublié, moi et Jonathan, aussi proches que nous étions, vous savez, moi j'étais punk et lui c'était un gamin sage. J'aimais prendre beaucoup de drogue, j'aimais boire et Jonathan avait les yeux écarquillés, ne se droguait pas. Ne mangez pas que des aliments diététiques. Donc on voit bien l'ambiance qu'il pouvait y avoir à Boston. En tout cas, le point commun entre les Liars et les Real Kids, c'est qu'ils étaient plutôt du genre à ne pas sucer de la glace. Et donc je vous propose deux morceaux de rock and roll de Boston. Les Real Kids, c'est 77.
Yes.
Yeah.
Voilà, voilà, c'était donc les Liars avec les Real Kids.
Yeah, ça me rappelait ce fabuleux morceau des Liars qui s'appelle You Never Do It Baby,
mais,
avec un riff incroyable.
Alors, j'avais que l'embarras du choix. Voilà.
Oui.
Alors, vous pouvez noter quand même les Liars 87, Real Kids 77, donc 10 ans avant, et au niveau son, il n'y a pas à chier, les Real Kids, ce disque a un son terrible.
Ouais,
et là,
c'est très chaud, très
ouais, dans les années 80, on a perdu quelque chose au niveau de la prise son. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, en tout cas, bon, moi, ça m'a fait super plaisir d'écouter tout ça.
Oui, alors, le morceau des Liars, donc. Do you know, oui. Ce qui est assez fort, c'est qu'en fait, le rythme de la batterie, il est calé sur le. Sur les.
Excusez-moi.
Non, sinon, tu me dis tais-toi. Hein,
je
comprendrais.
Je sais pas ce qui m'a pris.
Et en fait, le beat de la batterie est calé sur le trémolo, en fait. Hein,
ouais,
c'est le trémolo de la guitare. C'est assez fort, ça. C'est vraiment très bien fait. Voilà.
Exactement. Alors. Il est bien, c'est bientôt la fin, donc on va se dire au revoir, mais avant, il y aura la fameuse séquence. Hein,
The Last But Not Least,
exactement.
Durant lequel on vous propose deux versions d'une chanson à vos oreilles également aimables.
Exactement. La prochaine Roll Maps, c'est numéro 29, eh bien, c'est dans 15 jours et ce sera le 1er février, mon cher Lolo.
Ah, bah oui, très
bien.
Ben
voilà, donc à 18h sur Radio Campus 88.3 et sur l'Internet.
Absolument.
Voilà.
Donc le morceau que j'ai choisi pour notre Last But Not Least est un morceau de Rufus Thomas. Alors Rufus Thomas, il est né en 1917 dans le Mississippi et il est mort en 2001 à Memphis, Tennessee. Alors c'est un compositeur et chanteur américain de blues, rhythm and blues, de soul et de funk. Rufus Thomas est l'un des fondateurs du rhythm and blues moderne. Au début des années 40, il commence à écrire et interpréter ses propres chansons. Il signe chez Sun en 51 et on lui doit le morceau Bearcat, un super morceau composé en 53. Et en fait, c'est une parodie de Hound Dog.
You ain't nothing but Bearcat.
Et enfin, il signe chez Stax en 1960 et le succès mondial arrivera en 1963 avec notre morceau, c'est Walking the Dog.
Exactement, même si pour moi son morceau fabuleux c'est Train No. 9 Is Come.
Ah oui, oui, oui. Alors ce morceau a été repris à ma connaissance par les Rolling Stones, les Sonics, Aerosmith, les Cramps.
Oui.
Il y en a d'autres, mais voilà, à vous de nous le dire.
D'ailleurs, c'est toujours le même jeu. Bon, personne ne participe à notre jeu.
Ah, bah mince alors. C'était une fausse bonne idée. Alors, donc on écoute
Monsieur
Rufus
Potard, qu'est-ce que vous faites?
On écoute Rufus Thomas donc, avec Walking the Dog en 1963.
Très bien.
Maybe back, dressed in black. Silver buttons all down her back. High low, tipsy toe. She broke a needle and she can't sew. Walking the dog. Guess who walking the dog? If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. See the elephant jump the fence. He jumped so high, he touched the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog. Just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row, walking the dog. Just a walking the dog. If you don't know how to do it, show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Just a walking. Oh yeah. If you don't know how to do it, I'll show you.
c'était, vous avez reconnu, c'est Aerosmith sur leur premier album en 73.
Ah, une bonne version hein, quand même. Hein. Le début est très étrange. Mais...
Oui. Et d'ailleurs, il y a une version live où on voit Steven Tyler jouer de la flûte.
Ouais.
Un petit peu, bon, c'est du pipeau. Hein.
Très bien. Bon, on se fait des bisous.
Oui, on se dit à très bientôt. On se revoit le 1er février donc.
C'est ça.
Voilà.
Très bien. Allez.
Salut Bubu, salut tout le monde.
Ciao les filles, ciao les gars.